Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'activer votre mémoire, ou même de l'alimenter, en évoquant des Montpelliéraines d'un passé proche ou lointain. Quoiqu'elles soient hors du commun, par leur vie, par leur action, elles sont méconnues et même inconnues. Pour lever le voile sur ces femmes, souvent laissées dans l'ombre de l'histoire, j'ai invité Michèle Verdeillan, présidente de l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier, académie qui a organisé les 13 et 14 novembre dernier le colloque « Remarquable Montpelliéraine », au pluriel bien sûr. Madame la Présidente, merci d'être venue au micro de Divergence. Vous êtes professeur émérite des universités, vous avez enseigné les sciences du langage à l'Université Paul Valéry et à l'Institut universitaire de formation des maîtres, qui s'appelle aujourd'hui Faculté d'éducation. Vous avez développé des recherches sur les aspects linguistiques du français et sur l'enseignement du français, tant langue maternelle que langue étrangère. Vous avez intégré l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier en 2020 et vous la présidez depuis février 2025. Alors bien sûr, première question, en quelques mots, dites-nous comment est composée l'Académie, créée, tenez-vous bien, en 1706 sous Louis XIV et quelles sont ses activités ?
Oui, merci de votre invitation. Je suis ravie de vous parler de l'Académie. C'est une vieille dame, vous voulez le signaler, mais une vieille dame qui se porte très bien et qui est très dynamique. Avec beaucoup d'activités. Elle est organisée en trois sections. 90 membres répartis en trois sections d'égale importance, lettres, médecine et sciences. Bon, elle a été créée par Louis XIV en 1706. Il voulait, au sud, un pôle de réflexion scientifique et de débat scientifique, comme il en avait créé un au nord avec l'Académie française. Et donc la mission de l'Académie, eh bien, c'est d'aider à la diffusion du savoir et de la culture.
Pour le coup, c'est Montpellier qui avait été choisi, si j'ai bien compris, oui, par le roi, plutôt que Toulouse.
C'est Montpellier qui avait été choisi, effectivement, par Montpellier. Mais il y avait créé à Nîmes. Une académie également à Nîmes qui existe toujours.
Très bien. Alors avant que vous nous parliez plus précisément de ces Montpelliéraines remarquables, racontez-nous d'abord votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Quels sont le ou les lieux d'ici que vous appréciez particulièrement et que vous recommandez à vos amis de passage ?
Ah, pendant longtemps, j'ai recommandé le Pérou, oui, pour la vue, bien sûr. Mais j'ai envie de recommander un endroit un peu plus confidentiel, un peu plus secret.
Ah, très bien.
C'est le jardin du Moko. Parce qu'il y a tout dans le jardin du Moko. Il allie la tradition.
Il est rue de la République.
Rue de la République, près de la gare. Il y a l'hôtel de Montcalm, qui est un des beaux hôtels anciens de Montpellier. Il allie à cette tradition historique la modernité, puisque c'est le musée d'art contemporain. La Méditerranée, avec une belle fontaine très originale, elle-même une œuvre d'art contemporain. Et aussi la végétation du monde entier, parce que c'est un jardin conçu comme une map-monde, avec des plantes venues d'un peu partout, et qui s'appelle d'ailleurs le jardin des cinq continents. Il me semble qu'il résume bien Montpellier.
Très bien, merci madame. Alors, on comprend dans quel esprit vous êtes placé pour préparer cette émission avec moi, puisque moi, quand on mettait au point notre échange, vous m'avez proposé une manière inédite, et en tout cas à ce micro, de raconter Montpellier, c'est-à-dire un parcours dans les lieux liés à l'éducation. Alors, bonne idée, donc, et merci madame de faire la guide. Nous vous suivons.
Ah, mais nous allons partir, honneur aux dames, du premier lycée de jeunes filles créé en France en 1881, tout de suite après la loi Camille C, qui est devenu le lycée Clémenceau. Il s'appelait lycée de jeunes filles à l'époque et il se trouve donc, et il se trouve toujours, avenue Clémenceau. C'est la bourgeoisie protestante montpelliéraine qui avait souhaité avoir très vite un lycée pour ces jeunes filles. Mais les garçons avaient déjà leur établissement secondaire avec le Collège Royal, d'ailleurs des Jésuites, je crois, dès le XVIIe siècle, à l'endroit où se trouve maintenant le musée Fabre. Le grand lycée, il est devenu ensuite le grand lycée impérial en 1804 et est passé à la citadelle et est devenu le lycée Joffre après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Si on remonte ensuite la rue de l'Université, eh bien on va trouver le rectorat, qui a été l'ancienne faculté des sciences, et il y avait la bibliothèque universitaire où j'ai travaillé quand j'étais étudiante. Actuellement occupé par le rectorat. Et tout ce bâtiment d'ailleurs, qui était l'ancienne faculté des sciences à mon époque, avait été à un moment, en 1915-1916, le lycée de garçons, parce que le lycée de garçons qui se trouvait dans Boulevard Sarail avait été réquisitionné pour recevoir les blessés de la Première Guerre mondiale, et donc les élèves, on les avait mis au rectorat, enfin à ce qui est actuellement le rectorat. Et c'est là que Jeanne Galzy, d'ailleurs une écrivaine montpelliéraine connue, a été la première femme à Montpellier, a enseigné chez les garçons. À côté de ce bâtiment historique...
À quelle époque était-ce, la Jeanne Galzy ?
1915. De 1915 à 1917, elle a enseigné chez les garçons. Tout à côté, l'actuelle fac de droit utilise des bâtiments d'un ancien couvent, le couvent des Visitandines, dont on peut voir la chapelle qui se trouve à côté, qui est devenue un lieu culturel. Un peu plus haut, bien sûr, on parlera de la faculté de médecine, l'ancienne faculté de médecine, qui est magnifique, près de la cathédrale. Mais il y avait aussi, près de la cathédrale, un bâtiment, alors cette fois-ci plus récent, où j'ai commencé mes études de lettres, qui était la faculté des lettres, qui est devenue maintenant une annexe de la faculté de droit. Et puis si on part vers les faubourgs, eh bien qu'est-ce qu'on trouvera ? On trouvera l'école normale de filles, rue Abbé de l'Épée, une école normale créée vers la fin du 19e siècle. Un peu plus loin, l'école normale de garçons, qui est devenue l'IUFM et la faculté d'éducation, comme vous l'avez indiqué. Et si on part encore plus loin, eh bien on trouvera ce qui a été créé dans les années 1960, la nouvelle faculté des sciences et le campus de l'université Paul Valéry, avec sa nouvelle réalisation, l'Atrium. Et encore plus loin, la nouvelle faculté de médecine, qui est une magnifique réalisation architecturale. Je trouve qu'en suivant ainsi ce fil de l'éducation, on parcourt aussi l'histoire de l'architecture éducative à Montpellier.
Un parcours des siècles de ces lieux de savoir.
Un parcours des siècles, oui.
Très bien, mais je vous remercie, madame. Alors, on poursuit. Autre question, on va d'aborder le sujet qui nous a rassemblés. Que pensez-vous, en tant qu'habitante, des profondes mutations urbanistiques, démographiques, sociales et autres que la ville a connues ? Quel regard d'habitante vous portez sur ces changements ?
Changements spectaculaires en 50 ans. Hein. Depuis l'époque où j'étais étudiante jusqu'à maintenant, c'est spectaculaire à tous les points de vue, économique, démographique, urbanistique, culturel. Et le culturel m'intéresse tout particulièrement. À l'époque où j'étais étudiante, qu'est-ce qu'il y avait comme possibilité culturelle à Montpellier ? Il y avait les Galas Carcenti et il y avait le théâtre Héberteau. C'est-à-dire le théâtre
de boulevard.
Des tournées
qui faisaient étape à Montpellier.
Il y avait des
spectacles de boulevard, disons.
Souvent le théâtre de boulevard. Quelques stars, alors à l'époque on disait vedettes. Hein. J'y ai vu Brel, par exemple, plusieurs fois. J'ai écouté Jacques Brel. Mais c'était tout. Pas d'orchestre, pas de théâtre local, rien du tout. François Delmas, le maire de Montpellier, avait une certaine méfiance vis-à-vis du milieu culturel, disait-on. Bon, tout cela s'est développé ensuite de façon remarquable. Et maintenant, Montpellier est, du point de vue culturel, une des villes les plus attrayantes de France, au point qu'elle est arrivée en finale de cette espèce de concours pour être capitale culturelle de l'Europe.
Tout à fait. Très bien. Merci, madame, de ce nouvel itinéraire dans la vie et dans l'histoire. Parlons maintenant des Montpellierennes qui ont été mises en relief et dont vous allez nous parler. Alors, de quel constat originel est venue l'idée de ce colloque? Quels étaient les objectifs de ces deux jours de travaux présidés successivement dans les différentes sessions, par l'ancien maire de Montpellier, Hélène Mandrou, par une chercheuse et par quatre professeurs d'université? Quel a été, je dirais, le déclic qui a conduit à cette organisation?
Le colloque annuel de l'Académie, qui est ouvert à tous, je précise d'ailleurs, et gratuitement, est organisé chaque année par une section différente de l'Académie. Et cette année, c'était la section des lettres qui en avait la charge. Alors, en tant que présidente l'an dernier de la section des lettres et présidente générale cette année, eh bien, j'ai souhaité proposer quelque chose qui fasse, qui mette en valeur les femmes du passé de Montpellier. Voilà, c'est parti de là, tout simplement.
Alors, je vous coupe, les femmes, c'est-à-dire, il y a des femmes remarquables vivantes, mais celles-là n'étaient pas dans le cadre que cette approche historique avait prévu.
Parmi les femmes remarquables vivantes, nous en avons invité certaines à assurer la présidence des sessions, voilà, comme vous l'avez indiqué. Mais effectivement, nous avons choisi de parler de femmes liées à Montpellier de façon souple, hein, d'ailleurs, nées à Montpellier, décédées à Montpellier, ayant vécu ou ayant travaillé à Montpellier plus ou moins longtemps, peu importe. Mais des femmes toutes disparues, en effet. Eh bien, parce qu'il faut leur rendre hommage, parce que justement, elles ont été oubliées, parce que l'aujourd'hui découle de leur action passée. Il faut leur redonner leur place. Le but, c'était de leur redonner leur place et de les faire connaître.
Très bien. Alors, on va voir ça de plus près. Un mot encore à grand trait sur les intervenantes et intervenants. Alors, j'en ai décompté 24, on ne va pas les citer, mais quels étaient un peu leur profil ou l'expertise ou la passion de cette question qu'ils ont démontré au fil du colloque?
J'ai fait un appel à mes confrères et consoeurs de l'Académie pour demander qui était intéressé par le colloque et qui souhaitait y participer. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de réponses. J'en suis ravie. Donc, la plupart des intervenants, parce que c'est aussi un colloque de l'Académie dans son ensemble, sont des académiciennes et des académiciens. Quelques intervenants et intervenantes extérieures du fait de leurs compétences dans tel ou tel domaine.
Très bien. Alors, bon, nous pourrions évoquer un très grand nombre de femmes, mais ce serait vain de s'en tenir à parcourir rapidement une longue liste. Mais Michel Verdier et moi allons en citer quelques-unes qu'on a mises un peu en introduction, sans développer leur présentation, par raison une certaine notoriété. Donc, Marie de Montpellier, seigneur de Montpellier, comte de Barcelone et reine d'Aragon, rien que ça, au XIIIe siècle. La sculptrice Germaine Richier, dont une œuvre a été installée sur l'esplanade Charles de Gaulle après une exposition l'an dernier au musée Fabre. L'écrivaine Albertine Sarrazin, la chanteuse Juliette Gréco, la résistante Laure Moulin, mais on en évoque à d'autres, ou encore Jeanne Galzi, que vous connaissez bien, puisque, Michel Verdier, vous avez écrit sur elle un livre intitulé « Une femme de lettres hors du commun ». Quelques autres noms à citer pour avoir un aperçu sur cette richesse, cette diversité des femmes remarquables?
Il y en a beaucoup, en effet, donc c'est difficile de choisir. J'aimerais rappeler l'existence d'Élisabeth Bouissonnade, au XVIIe siècle. C'est une femme du peuple, courageuse. C'est un symbole de la lutte pour le pain, pour la vie quotidienne. On ne sait pas exactement si elle a été vraiment la meneuse de la révolte de 1645, contre une nouvelle taxe royale. C'était une taxe pour le couronnement du roi Louis XIV, mais elle venait après bien d'autres. Et là, c'était trop. Hein, ça faisait trop. Donc, il y a eu une révolte forte en juin-juillet 1645. Élisabeth Bouissonnade est réputée en avoir été la meneuse. En tout cas, elle a été exécutée. Et même si ce n'était pas elle véritablement la meneuse, si elle a été confondue avec une autre, elle reste justement un symbole de résistance.
C'est la figure de cet épisode.
C'est la figure.
Très bien. Alors, voyons maintenant de plus près celles qui ont été, quelques-unes de celles qui ont été évoquées lors du colloque. Alors, faute de pouvoir parler de toutes dans le temps de cette émission, Michel Vaillant, vous nous direz votre choix. Donc, le colloque comportait trois sessions, on va les aborder successivement. Femmes d'action, femmes sociabilité et savoir, et enfin, femmes créatrices. Alors, parmi les femmes d'action, qui allez-vous nous faire découvrir ?
Nous venons de parler d'Élisabeth Bouissonnade, qui a donc participé à cette révolte de 1645. Mais en matière de résistance, il faut rappeler toutes les jeunes femmes résistantes dont Éric Irastorza, le général Irastorza, a parlé pendant le colloque. Les femmes, la résistance n'a pas été qu'une affaire d'hommes qui faisaient sauter des trains. Hein. La résistance a été aussi une affaire de femmes à Montpellier comme ailleurs. Elles portaient des courriers, elles cachaient les maquisards, elles ont protégé des enfants ou des adultes juifs. Ça a été une œuvre de femmes dans une ombre qui permettait la réalisation des actions violentes des hommes, en quelque sorte. Et ça, il faut le rappeler. Je suis heureuse qu'à la place des devenus des martyrs de la résistance, hein, à la préfecture, beaucoup de plaques portent justement les noms de ces femmes.
Notamment des lycéennes.
Notamment les quatre lycéennes du lycée Clemenceau, hein, qui ont été les plus connues, les plus reconnues, mais tardivement. Tardivement. Mais il y en a eu beaucoup d'autres, en particulier des enseignantes, des chefs d'établissement, des femmes, disons, auxquelles on ne va pas affecter une étiquette professionnelle.
Très bien. Alors, on poursuit le parcours dans ce colloque, de manière sélective, bien sûr. Dans la session « Femmes, sociabilité et savoir », a figuré notamment la table ronde intitulée « Pionnières en médecine de l'exception à l'évidence » et présidée par Isabelle Lafont, première femme doyenne de la faculté de médecine de Montpellier et aussi première femme à être à la tête de la conférence des doyens de faculté de médecine. Alors, quels ont été, je dirais, les points saillants, ce que vous avez retenu, je dirais, de cette séquence du colloque ?
Ah, ce fut un grand moment du colloque. D'abord ont été présentées plusieurs pionnières de la faculté de médecine à Montpellier, celles qui venaient de l'Est, notamment Glafira Ziegelman, par exemple, la première femme interne, première femme chef de clinique en obstétrique, ou celles qui ont été très, très connues, la première thèse en médecine, Agnès McLaren et aussi Madeleine Bresse. Mais toutes ces femmes avaient un point commun. Non seulement elles avaient le courage d'être des pionnières dans un milieu qui n'était pas franchement
accueillant.
Pas vraiment accueillant. Glafira Ziegelman, par exemple, elle a été admise à l'agrégation, elle a voulu se présenter à l'agrégation, on lui avait dit l'agrégation ça n'est pas pour les femmes. Elle a voulu se présenter quand même, à l'écrit qui était anonyme elle a été reçue, à l'oral on l'a renvoyée dans son foyer. Et uniquement parce qu'elle était une femme. Mais toutes ces femmes, courageuses, compétentes, elles étaient admirables aussi par leur dévouement à autrui. Non seulement en France, dans leur terrain, en quelque sorte, d'études, mais aussi à l'étranger. Glafira Ziegelman est partie en Inde et au Pakistan, et Élisabeth Lafourcade en Tunisie et au Maroc, où elle a eu une action absolument remarquable. Et Isabelle Lafont avait eu une excellente idée, c'était de faire venir des étudiantes ou des jeunes femmes liées à la faculté de médecine pour qu'elles puissent donner leur avis et leur réaction vis-à-vis de ces pionnières.
Pour
faire un lien avec le présent. Et ce sont aussi de jeunes femmes remarquables d'aujourd'hui qui parlaient de ces femmes remarquables d'hier. Mais c'est Isabelle Lafont qui vous parlerait le mieux de tout cela.
On va l'inviter. Alors, on poursuit, le temps passe. Quelques autres femmes de cette session, là, cette seconde session là, du colloque.
Je vous ai parlé du premier lycée de jeunes filles de France tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez le nom de sa première directrice?
Je ne le connaissais pas, on va nous avoir rencontré.
Voilà, il en a été question dans le colloque. C'est Jeanne Desparmet-Ruello. C'était une scientifique. Et en 1881, une femme scientifique, titulaire de diplôme scientifique, c'était rarissime. Et elle voulait développer l'enseignement des sciences à Montpellier. Et d'ailleurs, elle ne s'est pas bien entendue avec la mairie de l'époque, qui, bien qu'étant favorable à l'éducation des femmes, n'a pas voulu lui donner les crédits pour acheter suffisamment de matériel scientifique pour les femmes. Alors elle est partie, au bout d'un an.
Très bien. Alors, un dernier exemple de cette section.
Ce serait peut-être l'historienne Louise Guiraud, qui est une spécialiste du Moyen-Âge, qui a écrit la première histoire de Montpellier au Moyen-Âge, très, très documentée. Elle était admise à la Société archéologique de Montpellier. Elle aurait dû être académicienne. Et d'ailleurs, au début des années 1900, vers 1905 par là, 1906, son nom a été proposé, mais elle n'a pas osé suivre cette candidature. Elle a même écrit une lettre pour s'excuser que son nom ait pu être prononcé à l'Académie.
Ça, c'est intéressant, je vous coupe, madame, parce que j'ai me penché sur ce phénomène aujourd'hui, la modestie de certaines femmes à qui on propose une promotion et qui, contrairement à la plupart des hommes, hésitent en disant « est-ce que j'en suis capable ?» C'était le même phénomène,
en effet, oui, déjà.
Très bien. Alors, on poursuit cet aperçu sur le colloque avec la session « Femmes créatrices ». Alors, un exemple aussi que vous pourrez nous proposer.
Il y en aurait beaucoup. J'ai une petite faiblesse pour Juliette Figuier, qui est une autrice de nouvelles, d'essais, de poèmes, de contes, et surtout d'une douzaine de pièces de théâtre, dans un domaine quand même très pointu, qui est le théâtre scientifique. Ce n'est pas elle qui a inventé le genre, il existe depuis longtemps. Il se trouve que le mari de Juliette Figuier, Louis Figuier, qui était académicien d'ailleurs, était un scientifique spécialisé dans la vulgarisation. Et Juliette a mis son talent d'écrivaine au service de l'œuvre de vulgarisation de son mari. Et elle a écrit comme ça une douzaine de pièces. Alors une sur Gutenberg, par exemple, ou une autre sur Franklin, l'inventeur du paratonnerre. Et tant et si bien, ça a bien marché, c'était étonnant, que... une dizaine d'années après sa mort, son mari n'a trouvé rien de mieux que de s'attribuer la paternité de ses œuvres.
D'accord. Il y a d'autres exemples, on le sait. Avec l'exemple le plus connu, c'est Colette, qui s'est fait voler une partie de ses œuvres.
Mais d'autres scientifiques aussi, qui ont fait des travaux, et puis dont les travaux ont été signés par des messieurs.
Très bien. Alors, on s'achemine vers la fin de l'émission. D'autres femmes, on l'a évoqué, vous et moi, pourraient faire l'objet d'un deuxième colloque remarquable à Montpellier-Rennes. Alors, y songez-vous, y a-t-il en tout cas matière à organiser, on sait que c'est compliqué, une programmation, un programme qui mette en valeur ces femmes-là qui n'ont pas encore été citées ou présentées.
En effet, nous aurions pu parler sans doute de dizaines et de dizaines d'autres femmes. Donc, il y a matière non seulement à un colloque, mais à plusieurs colloques, mais je laisserai à de plus jeunes le soin de les organiser.
C'est dans les années qui viennent, en tout cas.
Par exemple. Mais certaines ont laissé des traces dans l'histoire française de ces élites, qui a, au XVIIe siècle, sauvé le cat des Espagnols. Elles ont laissé des traces dans l'architecture. La comtesse de Ganges, pour laquelle a été construit l'hôtel de la préfecture. Isabeau de Bonzy, dont le frère, le cardinal de Bonzy, a fait construire pour elle un hôtel rue Saint-Guilhem. Il y en a en art. Je regrette qu'on n'ait pas pu parler, par exemple, de Jeanne de Messieux, qui est une organiste célèbre, pianiste, compositrice, décédée. Alors, elle est décédée en 1967 ou 68, par là. Bon, il y a en médecine, on a parlé de médecine, Lydia Mazel Le Forestier, qui est une des premières ostéopathes rhumatologues. Elle a eu du mal à imposer d'ailleurs cette spécialité en tant que femme. Il y a des quantités de femmes dans des différents domaines, dans l'action sociale aussi. On a un institut Marie Kézergue. Sait-on qui est Marie Kézergue ? Généralement
Moi pas.
Généralement pas. Et Arne d'Argencourt a fait beaucoup pour l'œuvre de la miséricorde, qui existe encore, bien entendu, et fort heureusement. Donc, beaucoup d'autres femmes, et j'en ai comme ça des dizaines à proposer. Nous en avons des dizaines à proposer.
Alors, on a bien compris qu'il y a une espèce de filon très riche qui méritera, on peut l'espérer, d'être exploré, d'être traité dans les années qui viennent. Alors, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus, déjà sur le colloque de novembre dernier, patientez pour lire les actes complets, mais ils devraient être disponibles en juin prochain, c'est ça, madame ?
Oui, je l'espère.
Ils sont en cours de réalisation.
Voilà. Là.
Alors, si vous voulez d'ores et déjà accéder au contenu de ce colloque, vous pouvez visionner 20 vidéos qui sont donc accessibles sur le, passant par le colloque de l'Académie des sciences et des lettres,
site,
et pour accéder donc à ces vidéos qui reprennent, bien entendu, voilà, une bonne partie des interventions et des contributions qui se sont succédées deux jours durant en novembre dernier.
C'est la playlist sur le site YouTube de l'Académie.
Voilà. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie, madame, de votre participation et peut-être à une prochaine fois.
Je vous remercie.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché ?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui ne m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.